Ce soir, je suis spécialement heureux d'accueillir François Clemens, que certains d'entre vous avaient peut-être déjà eu l'occasion d'entendre il y a quelques années dans le cadre d'un séminaire qu'on avait fait sur l'approche de la perception, phénoménologie, grammaire, sciences cognitives. Tu avais déjà parlé de Bertrand Russell, si je ne me trompe.
Non, j'avais parlé du concept de propriété phénoménale.
Ah oui, oui.
C'est d'avant le bouquin que...
Excuse-moi.
C'est une qualité seconde, des choses comme ça.
Oui, oui. Je suis particulièrement reconnaissant à François Clemens d'avoir réussi à être présent ce soir, parce que le pauvre, il a eu une opération de la mâchoire. J'espère que ce parler ne va pas le faire souffrir trop gravement. Je ne vais pas le présenter, je dirais simplement que je le considère personnellement comme un des meilleurs spécialistes que nous avons en France de Bertrand Russell. Alors souvent on se demande quel est le plus grand philosophe du XXe siècle, ce qui est une question d'une absurdité particulière. En général, les Français répondent que c'est Heidegger, les Allemands aussi, la plupart du temps. Les Anglo-Saxons hésitent entre Russell et Wittgenstein. Toute une partie d'entre eux pense que c'est Russell, l'autre que c'est Wittgenstein. Et alors ce qui est bien et réjouissant, c'est que ce soir nous allons entendre parler des deux, puisque oui. François Clemens va nous parler d'un sujet qu'il a appelé donc le Russell et Wittgenstein, la genèse de l'atomisme logique, mais il m'a demandé de préciser que, et d'ailleurs il le fera lui-même, qu'il sera question principalement de la question de la bipolarité. Je te donne la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais bien sûr d'abord remercier Jacques Bouvresse de m'avoir fait l'honneur et l'amitié de m'inviter donc pour la deuxième fois à m'exprimer dans son séminaire. Mais je voudrais commencer aussi, effectivement, par m'excuser auprès de vous et de lui. Du caractère beaucoup trop ambitieux, bien sûr, et en tout cas totalement trompeur, ou très largement trompeur, du titre que j'avais initialement cru pouvoir donner à mon exposé, donc « Russell, Wittgenstein et la genèse de l'atomisme logique ». Alors, je m'explique. C'est une citation que je crois qui est... Enfin, c'est le résumé que j'ai mis en tête du handout. Enfin, il ne faut pas dire un handout, donc un document de travail, c'est vrai. Dans « Histoire de mes idées philosophiques », qui est un texte tardif dans lequel... qui est une sorte de biographie intellectuelle de Russell. Russell dit « L'influence de Wittgenstein se fit sentir sur moi en deux vagues. La première, avant la Première Guerre mondiale, en fait, juste avant la Première Guerre mondiale, la seconde, immédiatement après la guerre, quand il m'envoya le manuscrit de son Tractatus. Le fait est qu'il serait difficile d'exagérer l'intensité, l'importance, la fécondité des échanges intellectuels qui se sont institués à ce moment-là entre les deux hommes, à partir de l'automne 1911, c'est-à-dire arrivée de Wittgenstein à Cambridge. Pour la première fois, Russell déjeune avec Wittgenstein, accompagné de sa maman. Wittgenstein vient étudier avec Russell, au point d'en devenir bientôt l'interlocuteur privilégié et en quelque sorte le collaborateur. Et cela jusqu'à la fin de la décennie, en dépit de la parenthèse de la guerre, et avant que, peu à peu, comme vous le savez, leurs itinéraires à tout point de vue se séparent irrévocablement. Du même coup, mon intention était au départ de décrire le jeu des complexes, des influences réciproques tout au long de cette période qui s'achève avec la rédaction définitive du Tractatus, d'une part, et avec la publication en 1918 des fameuses conférences de Russell sur la philosophie de l'atomisme logique, d'autre part. Mais bon, c'était à l'évidence un programme beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop vaste, en tout cas, qu'il m'a fallu, au moment de passer à la rédaction de mon papier ces jours derniers, sous anti-inflammatoire, donc, réviser à la baisse de façon très draconienne. En réalité, je ne vais traiter que de la première des deux vagues dont parle Russell, donc la première période de leur travail en commun, si je puis dire, en tout cas de leur relation intellectuelle, et même en réalité en me centrant sur un thème, un et un seul, qui est la question de la bipolarité de la proposition, ou plus exactement de la proposition élémentaire. Il y a toutes sortes d'aspects autres et importants, bien que liés bien sûr à celui-ci, l'influence, pour dire vite, de l'impact, comme dira Russell, de Wittgenstein dès cette époque-là sur son propre travail, à commencer par l'inachèvement, enfin, c'est une des causes essentielles de l'inachèvement du manuscrit de 1913, Theory of Knowledge, la théorie de la connaissance, autour de la question de la forme logique, qui jouera le rôle que vous savez ensuite dans le Tractatus. D'abord, j'en ai parlé plusieurs reprises ailleurs, et puis, déjà avec la bipolarité, je ne vais même pas pouvoir, je pense, lire l'intégralité de la version un peu plus développée de ce papier. Alors, donnons un nouveau titre à cet exposé. C'est un terme qu'emploie Wittgenstein dans une lettre à Russell à un moment. Il parle de, en anglais, il parle de bipolarity business, l'affaire de la bipolarité. Donc aujourd'hui, l'affaire de la bipolarité. Alors, la thèse de la bipolarité de la proposition est à la fois une des thèses les plus fondamentales du premier, ou en tout cas, c'est un point sur lequel je reviendrai, du tout premier Wittgenstein, et l'une de celles dont le philosophe autrichien semble avoir aperçu le plus clairement dès 1913 les conséquences et la portée. Aussi occupe-t-elle une place de choix dans les premières pages des Notes sur la logique, rédigées à la demande de Russell au cours de cette même année, 1913. Je cite, alors vous trouvez ça dans la traduction de Granger qui accompagne les carnets de 1914-1916, « Toute proposition est essentiellement vraie-fausse. Une proposition a donc deux pôles correspondant au cas de sa vérité et au cas de sa fausseté. C'est ce que nous appelons le sens d'une proposition. » Alors, pour le dire vite, à la différence d'un nom, dont la signification se réduit à la désignation de son porteur, et qui, s'il échoue à désigner réellement quelque chose, est donc tout simplement dépourvu de signification, une proposition, si elle possède elle aussi, pour Wittgenstein, à cette époque, une référence, à savoir le fait qui lui correspond dans la réalité, j'expliquerai ce que ça veut dire, a par ailleurs, qu'elle soit vraie ou fausse, un sens. Selon la métaphore célèbre que Wittgenstein reprendra mot pour mot dans le Tractatus en 3.144, les noms sont comme des points, les propositions comme des flèches, elles ont un sens. En dépit de cette reprise littérale, il est toutefois permis de se demander jusqu'à quel point la thèse de la bipolarité constitue encore quelques années plus tard, ainsi qu'on tend à le penser habituellement, l'une des composantes essentielles de la doctrine du Tractatus. Ainsi, notre ami François Rivinck, par exemple, a-t-il pu soutenir, dans un article relativement récent sur lequel j'aurai l'occasion de revenir par la suite, qu'elle n'occupait en définitive dans le maître livre de Wittgenstein qu'une place tout à fait secondaire, en ce sens que la théorie de la proposition image la rendrait d'une certaine manière inutile et donc en un sens caduque. Alors, comment trancher ce point d'interprétation sans revenir d'abord sur la signification précise d'une thèse dont on peut, en tout état de cause, difficilement imaginer que le contenu ne se soit pas modifié au fur et à mesure qu'évoluaient, et à l'époque c'était à la vitesse grand V, les idées de son auteur, en l'occurrence Wittgenstein lui-même. Sans doute n'y a-t-il guère de meilleurs moyens de s'assurer de la nature exacte des thèses d'un philosophe que de les confronter aux thèses à première vue semblables dont elles ont pu susciter la formulation dans l'œuvre d'autres auteurs. Et à cet égard, il pourrait sembler que cette thèse apparemment centrale de la version particulière d'atomisme logique, pour user d'un terme que Wittgenstein lui-même, bien sûr, n'a jamais employé, en quoi consiste la philosophie du Tractatus, soit aussi l'une des pièces maîtresses de la doctrine défendue par Russell sous ce nom. Dans la première de ses 8 conférences sur la philosophie de l'atomisme logique, paru en 1918, mais qui date en fait de l'année précédente, Russell écrit en effet, c'est la deuxième citation, je vous laisse découvrir tout seul la première que je trouve assez amusante, la deuxième citation sur le handout, que je lis, donc, « Du point de vue formel, il est commode de considérer la proposition comme ce qui possède essentiellement la dualité de la vérité et de la fausseté », écrit Russell. Il est très important de réaliser certaines choses, comme par exemple que les propositions ne sont pas des noms des faits. C'est tout à fait évident aussitôt qu'on attire l'attention dessus. Mais en fait, je ne m'en étais pas rendu compte, jusqu'à ce qu'un de mes anciens élèves, Wittgenstein, ne le fasse. Il est parfaitement évident, dès que vous y pensez, qu'une proposition n'est pas le nom d'un fait, de cela seul qu'à chaque fait correspondent deux propositions. Supposons que ce soit un fait que Socrate est mort. On peut en effet le supposer. Vous avez deux propositions. Socrate est mort et Socrate n'est pas mort. Et ces deux propositions correspondant au même fait, il n'y a qu'un seul fait qui rende l'une vraie et l'autre fausse. Cela n'est pas accidentel et illustre de quelle façon la relation entre la proposition et le fait est totalement différente de la relation entre le nom et la chose qu'il nomme. Pour chaque fait, il y a deux propositions et rien dans la nature du symbole ne nous montre laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. S'il y avait quelque chose qui le montre, on pourrait découvrir la vérité sur le monde par le seul examen des propositions sans même regarder autour de soi. Fin de citation. Je cite la traduction de Jean-Michel Roy, Russell, écrit de logique philosophique, aux presses universitaires de France, page 346. De prime abord, et même si la métaphore de la bipolarité ne figure pas expressément en tant que telle dans ce texte, bien connu d'ailleurs, rien ne paraît ressembler davantage en effet aux idées voisines déclinées 3 ou 4 ans plus tôt par Wittgenstein, dont Russell commence par dire au début de des conférences de 1918 qu'il est sans nouvelles depuis le début de la guerre, déclinées par Wittgenstein, donc dans les notes sur la logique en 1913 ou dans les notes dictées à Moore en Norvège en 1914. À moins, toutefois, que la version russellienne ne constitue à tout prendre qu'une sorte d'ersatz philosophiquement peu satisfaisant de la thèse originale de Wittgenstein, comme l'ont suggéré quelques commentateurs dans la période récente, dont le plus radical à cet égard est probablement Anthony Palmer, dans un article paru en 1996 que vous devrez normalement trouver dans ma biblio gagnée. Bon. Selon Anthony Palmer, la thèse de la bipolarité de la proposition est, je cite, « la théorie wittgensteinienne du sens ». Bon, alors c'est peut-être un point de besogne, mais disons, c'est la théorie wittgensteinienne du sens pour l'époque qui nous intéresse. Ainsi que, je cite, « la première découverte ou la première intuition majeure, « the first great insight » de Wittgenstein en ce qui concerne la nature de la logique. Comme on peut s'en convaincre aisément à la lecture de la première section des notes sur la logique, la question de la bipolarité se situe effectivement au carrefour de tout un ensemble de préoccupations qui ont trait principalement au lien entre signification et vérité, à la nature des vérités logiques, au problème de la négation et enfin à la mise au point d'un symbolisme logique adéquat. Alors pour ce qui est du premier point, signification et vérité, toute la difficulté consiste à concilier l'idée qu'il existe une relation interne entre signification et vérité avec l'évidence qui veut que le sens d'une proposition soit indépendant de sa vérité et de sa fausseté. Telle est l'équation que Frege et Russell ont eu le mérite de poser aux yeux de Wittgenstein, mais que ni l'un ni l'autre ne sont parvenus en définitive à résoudre de façon réellement satisfaisante. Ainsi, par exemple, Frege a bien vu qu'il existait un rapport étroit entre signification et vérité en partant du jugement pour aller jusqu'au concept et non l'inverse, et en conduisant une analyse fonctionnelle de la proposition fondée sur l'idée que l'unité de celle-ci repose sur le caractère insaturé du terme conceptuel qu'elle contient nécessairement, assimilé, comme vous le savez, à une fonction qui prend pour argument un ou plusieurs objets et pour valeur, donc, le vrai ou le faux. Mais sa doctrine de l'assertion, opposant d'emblée une distinction entre le contenu jugeable, ou, pour adopter la terminologie qu'il emploiera par la suite, la pensée exprimée par la proposition et le jugement qu'il affirme, s'écarte en revanche de cette intuition essentielle. De ce point de vue, Russell a donc eu raison de rejeter la relation purement externe, comme il l'écrit dans les Principles of Mathematics, paragraphe 477, que l'auteur de la Begriffsschrift établit entre pensée et jugement, mais du même coup, il n'aurait jamais dû accepter lui-même, Russell, de distinguer à son tour entre concept propositionnel et assertion. Comme l'a bien vu Sébastien Grandot dans son excellent petit ouvrage s'appelle « Logique et langage, études sur le premier Wittgenstein » chez Vrin, 2002. Comme l'a bien vu Gandon, il est à cet égard probable que la doctrine de la bipolarité, et avec elle l'adoption de la méthode de notation AB, enfin A-B, trouve en partie sa source dans le rejet par Wittgenstein de la notion frégéenne et russellienne, ou les notions frégéennes et russelliennes d'assertion. Ben, c'est évidemment pas hasard si celle-ci fait directement l'objet des critiques de Wittgenstein. Quelques paragraphes plus loin, je cite, le signe d'assertion n'a aucune signification logique. Il montre seulement chez Frege et chez Whitehead et Russell que ces auteurs tiennent les propositions ainsi marquées pour vraies. Le tort de Russell dans les Principles est d'avoir suivi Frege sur ce point en distinguant quant à lui entre le concept propositionnel la mort de César, par exemple, et l'assertion Socrate est mort. Et de façon plus générale, pour aller un peu plus vite et sans entrer dans le détail des théories successives de la proposition et du jugement qui a été élaboré par Russell entre 1903, date des Principles, enfin date de parution des Principles, et 1913, il est clair que le philosophe britannique n'est jamais parvenu à rendre compte conjointement, simultanément, du problème de l'unité propositionnelle et de la possibilité du faux. C'est tout à fait fascinant. Dès qu'il réussit à en saisir un, l'autre s'envole et réciproquement. Impossible de les traiter de manière satisfaisante, simultanément. Dans les notes sur la logique, j'en reviens à Wittgenstein, la notion de bipolarité est introduite à partir d'une brève série de remarques explicitement dirigées tout à la fois contre Frege et Russell, touchant la différence qu'il convient d'observer entre la relation d'un nom avec l'individu qu'il désigne et la relation spécifique que les propositions entretiennent quant à elles avec la réalité. Je cite, « Frege a dit « les propositions sont des noms ». Russell a dit « les propositions correspondent à des complexes ». Les deux assertions sont fausses, et particulièrement fausse est l'assertion, je cite, « les propositions sont des noms de complexes ». Wittgenstein conclut en disant « les faits ne peuvent être nommés ». Alors, il faut bien comprendre ce passage. S'il rejette la thèse de Frege sur laquelle les propositions sont des noms du vrai ou du faux, Wittgenstein n'en admet pas moins à la suite du logicien allemand. À l'époque, en tout cas, il admet que les propositions ont une référence, ce qu'il appelle en 1913 leur signification, meaning, et l'année suivante, dans les notes dictées à Moore, leur Bedeutung. Toutefois, à la différence de Frege, et sans doute sous l'influence de Russell, il considère que cette référence n'est pas une valeur de vérité, mais un fait. Le fait qui, selon que cette proposition est vraie ou fausse, lui correspond. Et correspond entre guillemets, puisque c'est selon le cas, le fait qu'il la rend vraie ou qu'il la rend fausse. Mais pourquoi, dans ces conditions, la seconde assertion, dans la phrase que j'ai lue, les propositions correspondent à des complexes, est-elle fausse pour Wittgenstein? Russell, à vrai dire, n'a jamais dit que les propositions sont des noms de complexes ou de faits. Au contraire, dans une lettre à Frege du 20 février 1903, il insiste sur la distance qui sépare à cet égard les propositions, les énoncés, les phrases déclaratives, des noms propres. Reste que pour lui, de même que la signification d'un nom propre se confond avec ce que les principles appelaient son indication, c'est-à-dire pour dire de sa référence, de même les propositions signifient le fait qu'il leur correspond. Wittgenstein donc s'écarte de Russell en admettant d'emblée que les propositions ont à la fois un sens, sinn, et une, ou sense selon le texte, et une référence. Mais d'une part, la notion wittgensteinienne du sens, de sens, ainsi qu'on va le voir, n'a pas en fait grand-chose en commun avec son analogue frégéen. Je veux dire que ni dans les notes, ni dans les carnets, ni a fortiori dans le Tractatus lui-même, où les propositions n'ont plus de Bedeutung, le sens d'une proposition ne peut être compris comme un mode de présentation du fait qui lui correspond. Mais d'autre part et surtout, Wittgenstein rejette d'emblée, et cette fois-ci semble-t-il à la suite de Russell, la thèse de Frege selon laquelle la référence d'une proposition serait sa valeur de vérité. La signification Bedeutung d'une proposition est donc non pas sa valeur de vérité, mais, je cite les carnets, page 71, en traduction française, le fait qui lui correspond effectivement. Autrement dit, et pour reprendre l'exemple de Russell donné tout à l'heure, soit Socrate est mort, dans l'hypothèse pour le moins plausible où cette proposition est vraie, sa signification, entendez par là sa référence en fait, sa Bedeutung, est naturellement le fait que Socrate est mort. Mais dans l'hypothèse contraire, supposé que miraculeusement Socrate était sauvé, Socrate n'est pas mort. Dans l'hypothèse où elle est fausse, la même proposition dénote au contraire le fait que Socrate n'est pas mort. Je dis bien le fait que Socrate, le fait négatif que Socrate n'est pas mort. En outre, si Socrate est effectivement mort, c'est ce même fait et lui seul qui rend simultanément vrai la proposition « Socrate est mort » et fausse la proposition négative « Socrate n'est pas mort ». A l'inverse, si cette dernière proposition est vraie, alors ce qu'elle signifie est négatif, écrit Wittgenstein. Et sa Bedeutung, le fait que Socrate n'est pas mort, est également ce en vertu de quoi la proposition Socrate est mort se trouve alors être fausse. Or, ceci suffit à montrer que l'on ne saurait réduire le sens, dans l'acception la plus générale cette fois-ci, la plus courante du terme, de sens d'une proposition à sa référence. Des prémices qu'on vient d'énoncer, il suit en effet que la signification entre guillemets d'un énoncé dépend de sa vérité ou de sa fausseté. Selon que P ou non P sera le cas, P, entre guillemets, aura une signification différente. Or, supposons que le contenu sémantique d'un énoncé se réduise à sa signification ainsi entendue, une telle hypothèse entrerait manifestement en conflit, premièrement avec l'évidence qui veut que nous soyons en mesure de comprendre une proposition indépendamment, et en tout cas avant de savoir si elle est effectivement vraie ou fausse, et deuxièmement, avec l'intuition à peine moins contestable, qui veut non seulement qu'une proposition fausse ait néanmoins un sens, autant qu'une proposition vraie, mais encore qu'une proposition donnée conserve le même sens, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. La conclusion qui s'impose est que les propositions n'ont pas seulement un meaning, une référence, une Bedeutung, mais aussi un sens, sinn. Le terme doit donc s'entendre à la fois dans son acception sémantique et dans son sens de direction, on va le voir. À ce sujet, Elisabeth Enscombe fait remarquer que cette seconde acception, si elle figure dans la notion de direction, qui figure dans le mot « sense » en anglais et bien sûr dans le mot « sens » en français, le sens en tant que direction, n'est pas en principe connotée par le mot « sinn » dans son usage courant, mais que ce terme figure, d'après elle, serait en revanche fréquemment employé en ce sens dans l'allemand des mathématiciens. Et donc Wittgenstein le connaîtrait pour cette raison.
Ah, c'est peut-être pour opposer Sinn et Richtung, je ne sais pas, sens et direction.
Oui, mais dire que la notion de direction est quand même malgré tout présente ou associée à la notion de Sinn.
Une direction unique correspondent deux sens, mais je ne sais plus, j'aurais dû vérifier si les Allemands utilisent ou non comme nous. Les mathématiciens en français distinguent le sens et la direction, puisqu'il y a une direction qui correspond deux sens. Peut-être que les Allemands font la même chose avec Zin et Richtung, mais c'est un point qu'il faut vérifier.
Je suis d'une totale incompétence
dans cas, dans l'allemand courant, alors là, sûrement, le mot Zin ne peut pas du tout être utilisé au sens de direction ou d'orientation.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les textes de Wittgenstein de cette époque, toute proposition a un sens et une direction. C'est net, on va le voir. Mais par hypothèse, et sauf à retomber dans les difficultés qu'on vient d'évoquer, elle ne saurait toujours pointer dans la direction de son référent. C'est-à-dire du fait qu'il se trouve lui correspondre dans la réalité, ce qui est le cas, si vous voulez, hein, et qui donc, selon le cas, la rend vraie ou fausse. On dira plutôt qu'elle pointe dans la direction du fait susceptible de la rendre vraie. Ainsi, comprendre une proposition, c'est savoir ce qui doit être le cas pour qu'elle soit vraie, et donc, corrélativement, ce qui doit être le cas pour qu'elle soit fausse. Par exemple, dans les carnets, page 171, dans les notes sur la logique, plus exactement, ce que nous savons quand nous comprenons une proposition, c'est ce qui a lieu si elle est vraie et ce qui a lieu quand elle est fausse. Mais nous ne savons pas nécessairement si elle est vraie ou fausse, etc. Autrement dit, et pour anticiper sur l'idée que Wittgenstein introduira plus nettement dans le Tractatus, comprendre le sens d'une proposition, c'est connaître ce que nous appelons ses conditions de vérité, si vous voulez. Naturellement, si P pointe dans la direction du fait que P, sa négation non P, entre guillemets, pointe dans la direction inverse, à savoir dans la direction du fait que non P. En quoi l'on peut dire, si on tient absolument à filer la métaphore, qu'elle s'éloigne de P ou qu'elle va, comme le dira plus tard Russell, à son encontre. Les deux formes de la relation à la réalité que recouvrent les notions de signification et de sens, enfin de meaning and sense d'une proposition, ne doivent surtout pas être confondues par conséquent. Les propositions sont comme des flèches qui pointent en direction du fait susceptible de les rendre vraies, et donc en direction inverse de celui qui sera susceptible, le cas échéant, de les rendre fausses. C'est en cela que consiste leur sens, qui peut être saisi sans que l'on sache si la proposition concernée est effectivement vraie ou fausse, mais qui n'en est pas moins, je cite Wittgenstein, déterminée par les deux pôles vrais et faux. De leur côté, les faits eux-mêmes peuvent être également comparés à des flèches. Non pas, bien évidemment, que les faits soient aussi bipolaires, parce qu'il y a des faits positifs et des faits négatifs, dit Wittgenstein, mais pas des faits vrais et des faits faux. Russell dira la même chose. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a une exception quand même. C'est ces faits que sont justement les propositions elles-mêmes. Enfin, c'est autre chose. Mais parce que si P, la raison, c'est que si P, entre guillemets, fait direction en signe du fait que P, la réalité elle-même peut s'accorder ou non avec cette direction. Selon que P ou que non P est le cas, on dira que ce qui est le cas va ou non dans la même direction que celle qui fait le sens de P. Comme l'écrit Wittgenstein, je cite, « De même qu'une flèche se dispose par rapport à une autre en étant de même sens ou de sens opposé, de même un fait se dispose par rapport à une proposition, c'est ainsi que s'introduisent le sens et la polarité. » Alors, si toute proposition a deux pôles, et qu'en outre ceci détermine conjointement le sens de la proposition concernée, alors il suit immédiatement, d'abord que nous sommes en mesure de comprendre une proposition que nous savons à la fois, et là je cite Wittgenstein, à la fois ce qui aurait lieu si elle était fausse et si elle était vraie. Et qu'il est de l'essence d'une proposition authentique de pouvoir être vraie, mais aussi de pouvoir être fausse. Et que par conséquent, il est exclu qu'une proposition authentique puisse être telle qu'il soit impossible, en vertu de son sens, qu'elle soit fausse, et donc qu'elle puisse être nécessairement vraie. De ce point de vue, la vérité ou la fausseté effective d'une proposition est une propriété entièrement contingente, accidentelle. D'où il suit, je cite Wittgenstein, qu'il n'y a pas de proposition analytique. Le mot proposition est souligné dans le texte. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, il y a des énoncés analytiques, il y a des propositions, des tautologies dialogiques. Mais ce ne sont justement pas d'authentiques propositions. Et plus généralement, aucune proposition réellement pourvue de sens ne saurait être vraie a priori. De là qu'au sens strict, il faille seulement parler de la thèse de la bipolarité des propositions élémentaires. Car bien sûr, une proposition moléculaire, elle, peut fort bien ne pas avoir les deux pôles du vrai et du faux. Il peut très bien être toujours vrai ou toujours faux. Mais il reste que ces propositions, les propositions qui sont dans ce cas, ne sont en fait que des pseudo-propositions. Toutefois, selon Wittgenstein lui-même, la caractéristique principale de la théorie de la bipolarité est que P, entre guillemets, a la même signification que non-P. Alors, entendons par là, une fois de plus, qu'elles auraient le même sens, ou qu'elles seraient deux mêmes sens, hein, bien sûr. Bon, polarité, pour parler comme Wittgenstein, sont naturellement opposées. Mais elles n'en correspondent pas moins, je reprends ce terme de correspondance hein, employé par notre ami Ludwig, à la même réalité, et c'est en quoi elles ont la même Bedeutung. La raison, nous l'avons vu, est que si P est vrai, c'est le même fait positif, le fait que P, qui la rend vraie et qui rend fausse du même coup sa négation non-P. Et si non-P, entre guillemets, au contraire, est vrai, alors c'est en vertu du même fait négatif, le fait que non-P, qui rend cette fois fausse la proposition P. En faisant reposer tout le poids de la différence entre P et non-P sur l'inversion des pôles correspondant à leurs valeurs de vérité respectives, la théorie de la bipolarité nous délivre de la tentation de penser que l'introduction du signe pour la négation modifie la signification de P. Je cite Wittgenstein, dans non-P, P est exactement le même que quand il est isolé, ce point est absolument fondamental. C'est lui qui dit. En particulier, si la différence entre P et non-P est une différence de sens et non pas de dénotation ou de référence, il s'ensuit que... différence de sens, c'est ça, et non pas de dénotation de référence, c'est bien ça. Il s'ensuit que le symbole pour la négation, le signe de négation, n'a pas en lui-même de dénotation. Vous voyez le Tractatus 4.06.21, dans la réalité, rien ne correspond au signe de la négation. De fait, si quelque chose correspondait dans la réalité au signe de négation, alors, et le raisonnement de Wittgenstein est assez connu sur ce point, celui-ci affecterait la référence des propositions concernées. Non P introduirait quelque chose de nouveau à P, non P quelque chose de nouveau par rapport à non P, et ainsi de suite. Or, il est difficile de croire que P, non P, non P, et continue à chaque fois avec un nombre pair de noms, constitue autant de faits distincts. Au vu de ces quelques conséquences immédiates, en quoi la notion de la bipolarité constitue-t-elle, ainsi que l'écrit Palmer, la première découverte majeure, donc « The Great First Insight » de Wittgenstein touchant la nature de la logique? Un premier élément de réponse tient précisément au statut de la négation. Dans non-P, nous venons de le voir, le signe de négation n'ajoute rien à ce que Wittgenstein appelle à l'époque la signification, « meaning » de P. C'est donc qu'il n'a pas lui-même de « meaning » ou, en d'autres termes, qu'il ne dénote rien. Or, d'emblée, Wittgenstein y voit le premier indice montrant qu'il pourrait ne pas y avoir de constante logique. C'est lui qui l'écrit. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'auteur des notes sur la logique ait pu présenter comme la caractéristique principale, effectivement, de sa théorie, l'idée que les propositions P et non-P ont la même signification, lui dont la première lettre à Russell qui lui soit parvenue soutenait déjà dès 1912 qu'il n'y a pas, je cite, « il n'y a pas de constante logique » et qui écrira, comme vous le savez, dans le Tractatus, en 4.0.312, « ma pensée fondamentale est que les constantes logiques ne sont les représentants de rien ». C'est la traduction que j'ai adoptée. Un second élément de réponse a trait à la question du symbolisme logique. Ici encore, comme l'a bien vu Palmer, le problème de la négation... Je dispose encore de combien de temps, en gros?
Oh, tu peux prendre une heure, sans problème, même un peu plus, si tu le souhaites.
Peut-être pas. Donc, non, parce que il faudra peut-être que je saute des passages. Mais enfin, bon. Je vais peut-être sauter quand même ce passage sur la méthode de justement AB de notation qui précède, vous savez... Enfin, La méthode VF, faux du Tractatus, parce que je pense que j'avais des choses extrêmement techniques à dire dessus, mais parce que bon, c'est quand même, bien que ce soit important, c'est peut-être un peu complique un peu les choses. Ce qui est intéressant, c'est que le système en question, on le voit bien dans le cas de la négation, etc., le système est supposé permettre, si vous voulez, de voir directement si on a affaire à une proposition vraie de la logique ou non, et sur la seule foi du symbolisme. L'avantage du système de notation AB, c'est qu'il permet de voir, sans avoir à sortir du symbolisme lui-même, par exemple, l'équivalence entre P et non-non-P est une tautologie, bon, et ainsi de suite. Or, ce qui vaut pour cette équivalence vaut plus généralement pour l'ensemble des vérités logiques. En symbolisant les propositions moléculaires au moyen de la notation AB, il devient facile de voir la nature des relations entre, d'une part, les pôles respectifs des propositions élémentaires dont elles se composent, et, d'autre part, les conditions de vérité des propositions moléculaires elles-mêmes. Il devient alors possible de savoir si le résultat obtenu constitue donc une tautologie ou une contradiction, en se fondant uniquement sur l'examen des symboles eux-mêmes. Si les pôles internes se distribuent de telle façon que, quelle que soit leur valeur de vérité, la valeur de vérité des propositions atomiques ainsi symbolisées, ils sont toujours reliés au pôle A, il s'agit d'une tautologie, et s'ils sont toujours liés au pôle B, il s'agit d'une contradiction. De plus, ce que signifie la thèse de la bipolarité, en l'occurrence, c'est qu'une proposition authentique est a priori susceptible d'être vraie, mais aussi d'être fausse, elle est a priori susceptible d'être vraie, mais aussi d'être fausse, de sorte qu'une proposition moléculaire dont la notation AB fait voir au premier coup d'œil qu'elle est toujours vraie, qu'il s'agit d'une tautologie, n'est justement pas une proposition authentique, et qu'en ce sens, elle ne nous dit rien. Et tel est le point de départ de la distinction entre dire et montrer, sur lequel s'ouvriront en 1914 les notes dictées à Moore, hein, je cite Wittgenstein, les prétendues propositions logiques montrent les propriétés du langage par conséquent de l'univers, mais elles ne disent rien. Ceci veut dire que l'on peut voir ces propriétés par simple inspection, tandis qu'on ne peut pas voir ce qui est vrai en regardant une proposition proprement dite. Alors, en dépit des simplifications un peu ou prou inévitables que comporte toute tentative de reconstruction de la genèse de la doctrine du Tractatus, du genre de celle à laquelle je viens de me livrer brièvement, on ne peut que rester, il est vrai, un peu rêveur devant la rapidité du cheminement qui devait conduire notre jeune logicien autrichien, si j'ose dire, à passer ainsi en l'espace de quelques mois, finalement, hein, de la recherche d'un symbolisme adéquat pour l'expression de la négation, à la thèse de la bipolarité proprement dite, et par le biais de celle-ci, à une conception entièrement nouvelle du statut des propositions logiques, et enfin à la distinction du dire et du montrer. Alors vous savez, le sort que Russell, dans l'introduction qu'il devait rédiger pour l'édition anglaise du Tractatus, allait réserver à cette distinction entre dire et montrer, sans véritablement faire état du raisonnement qu'il a sous-tend, et des arguments susceptibles de plaider en sa faveur. Je cite Russell, la phrase est connue, « Ce qui cause une hésitation, c'est qu'après tout, M. Wittgenstein réussit à dire beaucoup de choses à propos de ce qui ne peut être dit, suggérant ainsi au lecteur sceptique qu'il pourrait avoir un échappatoire à la faveur d'une hiérarchie de langage ou par quelque autre issue. » Vous savez également à quel point le texte de cette introduction devait irriter Wittgenstein, qui semble avoir été convaincu que son ancien professeur à Cambridge n'avait pas, en fin de compte, n'avait guère mieux compris la teneur de son livre que Frege, lequel, selon lui, n'en avait pas compris un traître mot, je le cite, puisque vous savez, il disait déjà ne pas bien comprendre la première proposition, donc comment pourrait-il comprendre la seconde. En reprenant ainsi à son compte les lieux communs qui traînent à cet égard dans une certaine forme de gloss canonique de l'œuvre de Wittgenstein, le moins qu'on puisse dire est que Palmer n'innove pas véritablement. L'intérêt et l'originalité de son interprétation, puisque je citais son article, consiste plutôt à se demander si l'incompréhension, selon lui, dont allait faire montre Russell face à ce qui peut être la thèse la plus radicale du Tractatus, hein, le dire et montrer, ne vient pas de ce qui n'aurait pas au départ réellement perçu le sens et la portée véritable de la notion de bipolarité. Car c'est ça que tient Palmer. Parce que dès le départ, Russell n'a pas compris ce que c'est que la bipolarité, qu'il ne pouvait pas comprendre ensuite le Tractatus quand il a reçu le manuscrit, pas bien en tout cas. Selon Palmer, une des principales difficultés que soulève l'interprétation de la thèse de la bipolarité tient au fait qu'il est relativement tentant de la confondre avec une doctrine à laquelle elle s'oppose au contraire frontalement. Et comme par hasard, cette doctrine est justement celle qu'expose Russell à la fin de ses conférences sur la philosophie de l'atomisme logique, et donc qu'il est, pour le moins ironique, dans ces conditions, qu'il en attribue la paternité à Wittgenstein. Lui-même victime de cette confusion, et donc largement responsable de sa perpétuation chez les commentateurs, Russell se serait constamment mépris sur le sens de la bipolarité, et c'est de ce malentendu initial, donc, que découlerait dans une large mesure l'incompréhension par la suite du Tractatus, en tout cas d'un certain nombre de thèses essentielles du Tractatus. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de cette interprétation? Le fait est, pour commencer, qu'il convient de distinguer soigneusement la thèse de la bipolarité de deux autres thèses avec laquelle on pourrait tenter de prime abord de la confondre. La première est tout simplement l'affirmation relativement banale, et qu'on peut faire remonter à Aristote, sinon à Platon, selon laquelle il est de l'essence de la proposition de pouvoir être vrai ou fausse. Comme le fait remarquer Hacker, cette première thèse, si vous préférez cette définition minimale de la notion même de proposition en tant que véhicule fondamental de la vérité ou de la fausseté, n'est pas nécessairement incompatible avec l'idée que certaines propositions, néanmoins, sont dépourvues de valeur de vérité. La seconde thèse correspond au principe de bivalence qui exclut précisément cette tierce possibilité. Alors, il va sans dire que Wittgenstein souscrit entièrement à ces deux thèses, notamment à la bivalence, mais bon, pour des raisons d'ailleurs assez précises chez lui. Toutefois, la thèse qu'il défend pour sa part, la thèse à bipolarité, est assurément plus radicale, qui consiste à soutenir que toute proposition doit être capable d'être vraie et aussi capable d'être fausse. D'un même mouvement, cette thèse est censée fournir à la fois une caractérisation de ce en quoi consiste la notion de sens d'une proposition et une contrainte sur la notion même de propositionnalité. Alors, sans doute, on l'a vu, y a-t-il des propositions qui ne répondent pas à ce critère, soit qu'elles soient analytiquement vraies, soit qu'elles soient nécessairement fausses, par contradiction. Mais tautologie et antilogie, par exemple, ne sont pas des propositions authentiques, on l'a dit, ce sont des cas limites, comme l'écrit Wittgenstein à cette époque-là, des propositions dégénérées. Russell, pour en revenir à lui, serait-il donc coupable d'avoir confondu la théorie de la bipolarité avec l'une ou l'autre des deux thèses dont je viens de la distinguer? Plus généralement, quelle est donc la fameuse doctrine avec laquelle il serait tentant de confondre la thèse de la bipolarité et à laquelle celle-ci s'opposerait au contraire radicalement, selon Palmer, dans l'esprit de Wittgenstein. Dans un court paragraphe des notes sur la logique, qui fait directement suite à l'introduction de la notion de bipolarité, Wittgenstein écrit effectivement que celle-ci ne doit pas être confondue avec une autre idée qu'il regarde comme erronée. Je cite « Je comprends la proposition ARB lorsque je sais que soit le fait ARB, soit que le fait non ARB lui corresponde, mais ceci ne doit pas être confondu avec la fausse opinion selon laquelle je comprends ARB, toujours entre guillemets, quand je sais que ARB ou non ARB a lieu. » Il y a de fois que Wittgenstein ne rejette pas plus dans ce passage l'idée qu'une proposition est par nature susceptible d'être fausse, qu'il ne rejette le principe de bivalence. À ses yeux, toutefois, aucune de ces deux thèses prises séparément, ni même les deux prises conjointement, ne saurait suffire à cerner la notion de proposition. Pour circonscrire celle-ci, il faut partir de l'idée que les propositions ont un sens. Or, je cite toujours Wittgenstein dans le même passage, ce que nous savons quand nous comprenons une proposition, c'est ce qui a lieu si elle est vraie et ce qui a lieu si elle est fausse. J'avais déjà cité ça. Mais d'une part, ceci, qui n'implique pas que nous sachions nécessairement s'il est effectivement vrai ou fausse, ne saurait évidemment se réduire au fait de savoir que la proposition en question est soit vraie, soit fausse. Et d'autre part, prise en elle-même, l'idée selon laquelle comprendre une proposition revient à connaître, si vous voulez, ses conditions de vérité, ne suffit pas encore à circonscrire la notion de proposition, puisqu'elle reste compatible avec l'hypothèse selon laquelle certaines propositions authentiques pourraient être vraie ou fausse a priori. Je me permets d'attirer votre attention sur ce point, parce qu'on dit quelquefois, finalement, ce que veut dire Wittgenstein, c'est simplement que le sens, c'est les conditions... comprendre, saisir le sens, c'est connaître les conditions de vérité. Non, ça va plus loin. La thèse de bipolarité, à mon sens, est plus forte pour cette raison. Vous pouvez très bien être viriconditionnaliste, comme on dit en théorie de la signification, et admettre qu'il y a des propositions nécessairement vraies. Me semble-t-il. La thèse de Wittgenstein, donc, va plus loin en affirmant, comme on l'a vu... Ah non, attendez, c'est ça. Le contresens commis par Russell consiste-t-il alors à avoir su distinguer la thèse de la bipolarité de la fausse opinion avec laquelle Wittgenstein nous invite effectivement à ne pas la confondre? Selon Palmer, la doctrine défendue en réalité par Russell se ramène à l'idée que, je cite Palmer, l'essence d'une proposition considérée en tant que symbole tient aux deux formes de relations qu'elle est susceptible d'entretenir avec les faits. Its duality of possible relation to fact. En d'autres termes, c'est lui qui continue, et qui dit en d'autres termes, une proposition est un symbole qui est soit vrai, soit faux. Vous noterez d'emblée que les deux idées ne sont en réalité, et en dépit du « en d'autres termes », nullement équivalentes. La seconde clause exprime une thèse plus faible que la première, puisqu'elle n'implique pas que vérité et fausseté seraient affaire de relation avec des faits. Alors commençons par nous concentrer sur la deuxième formulation de la thèse prêtée par Palmer à Russell, et dont on remarquera qu'elle est elle-même ambiguë. S'agit-il simplement de l'idée selon laquelle il est de l'essence d'une proposition d'être susceptible d'être vraie ou fausse, ou bien du principe de bivalence? Et demandons-nous si Russell, dans le passage les conférences sur la philosophie de l'atomisme logique, PLA, si vous voulez, demandons-nous si Russell n'a pas confondu en fait la bipolarité, soit avec la bivalence, soit même avec l'idée d'un simple dualisme du vrai et du faux. Le passage en question se présente à la fois comme une tentative d'éclaircissement de la notion de sens d'une proposition et comme une recherche philosophique venant à circonscrire la notion même de propositionnalité à partir de l'idée qu'il est de la nature des propositions d'être typiquement les véhicules du vrai ou du faux. Quelques lignes plus loin, Russell présente comme une conséquence de son analyse l'idée qu'une proposition est soit vraie, soit fausse, soit privée de sens, meaningless, ce qui peut passer pour une formulation du principe de bivalence. Je cite le passage, « Tout comme un mot peut être un nom ou ne pas être un nom, mais simplement un bruit dépourvu de sens, une expression qui est apparemment une proposition peut être vraie ou fausse, ou dépourvue de sens, mais le vrai et le faux ensemble s'opposent au non-sens. » Autrement dit, toute proposition est nécessairement soit vraie, soit fausse, et c'est alors, ou alors c'est qu'elle est dépourvue de sens, mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'une proposition, sinon en apparence. Dans ces conditions, on peut avoir en effet l'impression, à lire l'ensemble de ces paragraphes, que Russell ne distingue pas bien la thèse de la bipolarité de l'idée selon laquelle la proposition est le véhicule typique de la vérité ou de la fausseté, et d'autre part, enfin d'une part, et du principe de bivalence d'autre part, deux thèses dont il n'est pas sûr qu'il les distingue bien entre elles d'ailleurs à ce moment-là. Il est donc permis de se demander si dans son esprit la bipolarité, ou en tout cas, et puisqu'il n'emploie pas lui-même la métaphore des pôles dans ce texte, vous l'avez vu, la thèse dont il prétend que les grandes lignes ont été inspirées par Wittgenstein on peut se demander si elle ne se ramène pas en fait à une sorte de télescopage du principe de bivalence et de la notion de proposition en tant que véhicule du vrai ou du faux, dont il n'est pas certain, en demeurant, qu'il les distingue très clairement l'une de l'autre. L'idée qu'il défend n'est-elle pas, en fin de compte, que, du point de vue formel, comme il dit, il est commode, je le cite encore, de considérer la proposition comme, je cite, « ce qui possède essentiellement la dualité de la vérité ou de la fausseté ». Ou, selon une interprétation, une certaine interprétation, car tout dépend évidemment de la façon dont on comprend ici les mots « essentiellement » et « dualité », la phrase peut sembler rester en deçà de ce que veut dire Wittgenstein, même si celui-ci, on s'en souvient, introduit lui-même le concept de bipolarité dans les notes sur la logique en déclarant simplement que toute proposition est essentiellement vraie ou fausse. Les deux formules sont quand même très voisines. Ce qui fait défaut à première vue dans la présentation de Russell, est-ce que ça ne serait pas tout simplement l'idée qu'une proposition authentique est quelque chose qui doit être capable non seulement d'être vrai, mais aussi d'être faux ? Alors, le fait est que Russell ne souligne sans doute pas suffisamment cet aspect, qui est pourtant essentiel, on l'a vu, de la thèse de Wittgenstein, qui ne mentionne nulle part, du reste, explicitement à cet endroit du texte. Mais on notera toutefois que quelques paragraphes plus loin, il écarte l'idée qu'il y ait un sens à parler de faits vrais, en remarquant qu'il n'y a pas de faits faux, et que vérité et fausseté sont corrélatives. En effet, dit-il, vous ne diriez d'une chose qu'elle est vraie que si c'est le genre de chose dont vous pouvez dire qu'elle pourrait être fausse. De surcroît, nous avons vu que la thèse de la bipolarité comportait dans l'esprit de Wittgenstein au moins deux conséquences, dont on pourrait même dire qu'elles font partie pour lui de la doctrine, si vous voulez, de la bipolarité prise en un sens assez large. La première est donc cette implication présumée de la thèse de l'indépendance des propositions, du sens des propositions, que le Tractatus formulera en disant que cette forme d'image qu'est la proposition contient seulement la possibilité de la situation qu'elle figure, de sorte que pour savoir si elle est vraie ou fausse, nous devons, je cite, la comparer avec la réalité, et qu'il n'y a donc pas d'image vraie a priori, puisqu'à partir de la seule image, on ne peut reconnaître si elle est vraie ou fausse. Je télescope là quelques propositions du Tractatus qui se font suite. La seconde implication est l'idée que si P, entre guillemets, et non P sont évidemment de sens opposés, c'est néanmoins en vertu du même fait que des deux propositions, nécessairement, l'une est vraie et l'autre est fausse. Or, ces deux conséquences, comme nous l'avons vu également, sont clairement admises par Russell dans notre texte. Premièrement, pour chaque fait, il y a deux propositions, et rien dans la nature du symbole ne nous montre laquelle est la vraie et laquelle est la fausse. S'il y avait quelque chose qui le montre, on pourrait découvrir la vérité sur le monde par le seul examen des propositions, sans même regarder autour de soi. Et deuxièmement, les deux propositions « Socrate est mort » et « Socrate n'est pas mort » correspondent au même fait. Il n'y a qu'un seul fait qui rende l'une vraie ou fausse. Si l'aptitude à reconnaître ces deux conséquences immédiates, sinon ces deux composantes de la thèse de la bipolarité, constitue, comme on pourrait le penser, un critère permettant de savoir si la doctrine en question a réellement été comprise, le résultat du test, dans le cas de Russell, paraît jusqu'à présent assez largement positif. Dans ces conditions, en quoi la thèse russellienne de la dualité essentielle de la vérité et de la fausseté se distingue-t-elle donc de la doctrine de Wittgenstein, au point, si on comprend bien Palmer, de n'en constituer qu'une mauvaise contrefaçon? C'est ici qu'il nous faut nous pencher sur la seconde formulation de la thèse prêtée par Palmer à Russell. Je crois que c'était la première. En fin de compte, il semble qu'aux yeux de Palmer, l'erreur de Russell consiste essentiellement à identifier la notion de bipolarité avec celle d'une dualité de relations possibles entre les propositions et les faits. Or, toujours à première vue, on ne voit pas bien en quoi cette dernière idée diffère fondamentalement de celle que défendait Wittgenstein dans les notes sur la logique, en tout cas à première vue. Selon Wittgenstein, toute proposition élémentaire et toute proposition complexe authentique doit pouvoir être vraie ou fausse en quoi elle a deux pôles. Or, les mots « vrai » et « faux » ont trait, écrit-il dans les carnets le 13 juin 1915, ont trait à la relation de la proposition au monde. La valeur de vérité d'une proposition dépend en règle générale de ce qui est le cas, à savoir du fait qui lui correspond, ou autrement dit qui la rend, selon le cas, vraie ou fausse. Pour Russell également, il existe une différence fondamentale dans la manière dont ces deux catégories distinctes de symboles que sont le nom des propositions signifient. La relation entre le symbole et ce qui est symbolisé, écrit Russell, c'est la relation, hein, n'est pas de même nature dans les deux cas, on l'a vu. Si P et non P, comme l'a noté Wittgenstein, se rapportent au même fait, la relation entre la proposition et le fait est totalement différente dans la relation entre le nom et la chose qu'il nomme. La différence tient à ceci qu'il y a en définitive deux relations elles-mêmes différentes qu'une proposition puisse avoir avec un fait, comme l'avait noté Wittgenstein. Comme le dit Russell, l'une, la relation que vous pouvez appeler être vraie par rapport au fait, l'autre, celle que vous pouvez appeler être faux par rapport au fait. Alors, sans doute aussi pourrait-on s'étonner de lire qu'il est deux façons pour une proposition de correspondre à un fait, selon qu'elle est vraie ou fausse par rapport à lui, enfin, par rapport à ce fait. L'emploi du mot correspondance, dans le second cas, peut surprendre. Mais outre que Wittgenstein lui-même, dans les carnets et dans le Tractatus en 4.06.21, ne s'exprime pas autrement, il n'y a en définitive rien de particulièrement troublant, tant il est clair que correspondre à un fait ici ne signifie rien d'autre qu'être rendu soit vrai, soit faux, par le fait en question. Quand je parle d'un fait, je veux parler de l'espèce de chose qui rend une proposition vraie ou fausse, écrit Russell au début des conférences de théorie. Wittgenstein, lui, parle du fait qui correspond effectivement à la proposition et qui la rend vraie ou fausse. Russell écrit que la proposition correspond au fait, soit de façon vraie, soit faussement. Mais il dit aussi que c'est le fait qui correspond à la proposition en la rendant, selon le cas, vraie ou fausse. De toute façon, la relation de correspondance est évidemment symétrique et peut se lire dans les deux sens. Dans un sens, on dira que le fait vérifie ou falsifie la proposition. Dans l'autre, que la proposition correspond véridiquement ou faussement au fait. Alors, l'expression peut surprendre, tant nous sommes habitués, nous, à employer le mot « correspondre » dans le seul cas où la proposition est vraie, bien sûr. Mais l'idée est claire, il s'agit simplement des relations devenues récemment familières avec le développement de la théorie des truth-makers, des notions de vérifaction ou de vérification, pas au sens expérimental, ou de falsification et de leur converse. On est donc jusqu'ici, où est donc jusqu'ici la différence entre les deux auteurs, qui s'expriment finalement de la même manière. Alors, selon Palmer, un des signes au moyen desquels on peut le plus facilement mesurer toute la distance qui sépare ce que j'ai appelé la thèse de la dualité, autrement dit, l'intuition de Wittgenstein telle que la comprend Russell, de la thèse de la bipolarité proprement dite, a trait à l'importance relative que l'une et l'autre sont tout naturellement conduites à conférer à la notion de fait négatif. Aux yeux de Russell, ce que signifie la thèse de la dualité essentielle du vrai et du faux est qu'il existe deux formes de relations différentes qu'une proposition est susceptible d'avoir avec un fait. Les deux, affirme-t-il au début des conférences sur la philosophie de l'atomismologique, sont des relations logiques aussi essentielles l'une que l'autre, tandis que dans le cas d'un nom, il n'y a qu'une seule relation entre lui et ce qu'il nomme. Et du même coup, il faut bien qu'il y ait des faits négatifs auxquels les propositions négatives vraies soient en mesure de se rapporter véridiquement. À en croire Palmer, eût-il mieux pénétré le sens de la notion de bipolarité, Russell aurait évité de postuler l'existence de tels faits négatifs et de susciter ainsi, comme il le rapporte lui-même, les légitimes réserves de son auditoire. Alors, une telle affirmation ne laisse pas de prime abord d'étonner. Wittgenstein lui-même, dans les notes sur la logique, ne pose-t-il pas d'emblée, lui aussi, je le cite, qu'il y a des faits positifs et des faits négatifs. Mais il est vrai que dès l'automne suivant, la question est posée. Je le cite, « Le fait positif est-il primaire et le fait négatif secondaire ou bien sont-ils tous deux sur un pied d'égalité ?» À la limite, demande quelques jours plus tard dans les carnets Wittgenstein, y a-t-il des faits en dehors des faits positifs ? Force est de reconnaître que dans sa version initiale, en 1913, la théorie de la bipolarité nous entraîne à cet égard dans deux directions diamétralement opposées. D'un côté, la distinction qu'elle opère provisoirement entre le zin, le sens, et la signification ou meaning des propositions, ou plus exactement le choix que fait Wittgenstein d'assimiler la dénotation d'un symbole propositionnel au fait qui lui correspond, entre guillemets, dans la réalité, le contraint à introduire des faits négatifs afin de rendre compte de la signification, toujours entre guillemets, meaning, bedeutung, si vous préférez, de non-p, lorsque non-p est vrai. De ce point de vue, il existe une symétrie parfaite entre affirmation et négation qui devrait conduire à accorder une égale dignité ontologique aux faits positifs et aux faits négatifs. D'un autre côté, il n'en importe pas moins de reconnaître au contraire une forme de priorité de l'affirmation par rapport à la négation dans un énoncé d'impliquant... comme le montre l'exemple de non-non-p qui équivaut à p, ainsi qu'il apparaît clairement dans le cas des propositions atomiques, dont la négation ne saurait être, quant à elle, une proposition élémentaire, et ainsi qu'il ressort également de l'équivalence donc entre P et non-non-P. Ce que montre en effet ce genre d'exemple est non seulement que le signe pour la négation dans un symbole propositionnel du type non-P n'a pas en lui-même des notations, mais en outre, répétons-le, qu'elle ne modifie en rien la signification de P, dont elle n'est pas un prédicat, écrit Wittgenstein. Si le point est aussi fondamental que l'écrit encore Wittgenstein, c'est parce qu'il permet de dissiper ce que Wittgenstein, en 1914, appellera, vous le savez, le mystère de la négation. Les choses ne se passent pas ainsi, et pourtant nous pouvons dire comment les choses ne se passent pas. Le paradoxe de la négation, en l'occurrence, est donc que la proposition négative ne peut dire ce qui n'a pas lieu qu'en décrivant cela même qui n'a pas lieu, et qu'en ce sens, bien que non P dise par hypothèse le contraire de ce qu'affirme P, Les deux propositions n'en englobent pas moins d'une certaine manière la représentation du même état de choses. Dans les termes de la théorie de 1913, cet élément commun est le « meaning », la dénotation que les deux propositions ont en commun, c'est donc le fait, l'état de choses réel qui leur correspond et qui rend l'une vraie ou l'autre fausse. Le problème du même coup est que, certes, si P, entre guillemets, est vrai, non P ne dénote pas un autre fait que P, mais que si P est fausse, alors l'état de choses auquel elle renvoie tous les deux est automatiquement le fait négatif que non P. Ainsi, au moment même où elle tend à reconnaître une sorte de priorité à l'affirmation par rapport à la négation, et donc au fait positif par rapport au fait négatif, la théorie de 1913, en identifiant le meaning commun de P et de non-P avec le fait qui leur correspond dans la réalité, et donc, selon le cas, soit avec le fait que P, soit avec le fait que non-P, aboutit bel et bien au contraire à mettre les deux sortes de faits sur un pied d'égalité. Alors, au cours des années suivantes, vous le savez, la tension entre ces deux orientations contradictoires sera progressivement résolue grâce à la mise en place de la théorie de l'image, à l'émergence de la notion de situation ou d'état de choses possibles et corrélativement à l'abandon de la notion de bedeutung dans le cas des propositions qui permettront d'identifier au niveau du sens et non plus et pour cause de la référence ce que les deux propositions P et non P ont en commun. Dans la version plus développée de la présente étude, si j'ose dire, je consacre toute une section à cet aspect important de la doctrine du Tractatus ainsi qu'au cheminement laborieux qui conduit à sa formulation définitive, notamment dans les carnets 1914-1916, en passant notamment par l'hypothèse un temps caressée d'une proto-image ou d'une image primitive, Urbild, que P et non-P auraient en commun de projeter l'une sur le mode positif, l'autre sur le mode négatif, sur la réalité. Image primitive dont il ne sera plus question dans le Tractatus lui-même, sinon furtivement en 3.24, en tant qu'elle est vraisemblablement contenue dans l'expression de la généralité. Elisabeth Anscombe, dans son introduction au Tractatus, a d'excellentes pages sur cette question, d'ailleurs, de fameux Urbild. Alors, pour éviter de dépasser trop outrageusement le temps de parole qui m'est accordé, je laisserai de côté aujourd'hui l'essentiel de cette section, pour n'en conserver, si vous voulez, que les paragraphes de conclusion. Disons que dans le Tractatus, vous le savez, la notion de fait négatif n'est pas évacuée. Si la proposition élémentaire est vraie, écrit Wittgenstein, l'état de choses existe. Si la proposition élémentaire est fausse, l'état de choses n'existe pas. Et l'existence des états de choses et leur non-existence, nous les nommons respectivement aussi faits positifs et faits négatifs. C'est 2.06. En un sens, il y a donc bien des faits négatifs, mais chacun d'entre eux se réduit ainsi à la non-existence d'un état de choses, à la simple non-réalisation d'une situation, sans qu'il y ait lieu de lui accorder davantage de consistance métaphysique. En termes contemporains, on dirait que les faits négatifs surviennent sur les faits positifs. En d'autres termes, si le Tractatus invoque encore des faits négatifs, ça sera seulement au sens de la non-existence des états de choses, plutôt qu'au sens d'une catégorie de faits sui generis. Autrement dit encore, s'il n'y a pas d'état de choses négatifs, il y a en revanche des faits négatifs, l'erreur en l'occurrence consistant, et du point de vue de la philosophie du Tractatus, telle est précisément l'erreur commise par Russell dans la philosophie de l'atomisme logique, à confondre la non-existence d'un état de choses positif avec l'existence d'un état de choses négatif. Alors, de ce point de vue, il existe bien une différence fondamentale entre Wittgenstein, en tout cas l'auteur du Tractatus, et Russell. Mais, bon, de manière générale, force est de reconnaître que Russell accorde à la notion de fait négatif un poids métaphysique dont on cherchera vainement les traces dans le maître-livre de son ancien élève. Je vais laisser ce point sur cette question, car je crois qu'il y a une différence essentielle, mais il ne me semble pas qu'on puisse dire que c'est une conséquence directe d'une compréhension bonne ou pas de la bipolarité. Ou ça a à voir avec la théorie de la bipolarité prise en elle-même. Pour résumer très vite mon argument sur ce point, hein, je ne vais pas m'étendre. Là, je veux dire, en 1913, au début, c'est au moment où Wittgenstein introduit la notion de la bipolarité. Les premières choses qu'il dit en philosophie, quasiment, enfin, en dictant ses notes à Russell, qui suppliait, qui ne rendait jamais son travail. Tu vas me dicter au moins des notes. Et tout de suite, il introduit la bipolarité et d'emblée la notion de fait négatif. Donc, si vous voulez, je veux bien que l'évolution de sa réflexion, y compris sur la bipolarité elle-même et sur la notion de sens en liaison avec la bipolarité, l'ait amené progressivement à pratiquer ce qu'on pourrait appeler une forme de désinflation ontologique par rapport aux faits négatifs. Mais honnêtement, et contrairement à Palmer, je ne pense pas qu'en soi, ça soit le fond essentiel de la différence de point de vue entre les deux auteurs. Alors, on peut évidemment se demander si la différence d'approche entre Russell et Wittgenstein touchant le statut des faits négatifs n'a pas une origine plus profonde, en fait, plus profonde encore. Il semble, si j'en crois Palmer, à nouveau, que le fond du désaccord entre les deux hommes proviendrait de la façon différente dont ils conçoivent la notion de fait. Plus précisément, le malentendu viendrait de ce que Russell n'a jamais su vraiment distinguer les faits des complexes. On sait qu'aux yeux de Wittgenstein, l'échec de la théorie russellienne du jugement, et notamment de la théorie de 1913, est dû en grande partie à un usage suffisamment critique de la notion de complexe. Bon, je ne peux pas trop m'étendre sur ce point, mais dans un cas comme dans l'autre, vous savez ce que Wittgenstein dira plaisamment des complexes chez Russell, en disant il devait avoir la propriété commode d'être composé et combiner à celle-ci la grave propriété de pouvoir être traité comme simple. Hein, notamment, donc, il s'agit de ces complexes que sont chez Wittgenstein, les faits de perception. Bon. Et ce, parce qu'à ses yeux, aux yeux de Wittgenstein, pour Russell, les faits ne sont qu'une variété de complexes. C'est pour cela qu'il se voit crédité par Wittgenstein, au début des notes sur la logique, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'idée erronée sur laquelle les propositions correspondent à des complexes. Alors là, il y a une différence qui me semble très importante entre nos deux auteurs, et qui tient justement à la différence elle-même fondamentale de nature entre les faits et les complexes, qui est au centre de la critique de Russell par Wittgenstein, ainsi qu'une une des sources importantes de la distance qui vont séparer les deux hommes dans leur analyse même des complexes. Dans les carnets, Wittgenstein évoque ainsi ce qu'il appelle le vieux problème du complexe et du fait, dès 1915. Malheureusement, même s'il s'occupe lui aussi d'une place importante dans la version longue de la présente étude, il s'agit d'un aspect de la question que je voudrais également laisser de côté aujourd'hui, à la fois parce qu'il exige à lui seul, pour être sérieux, je crois, tout un exposé, et puis parce qu'à la différence de Palmer, il ne me semble entretenir lui aussi, en fin de compte, avec la question de la dipolarité considérée en tant que telle, qu'un lien, non pas certes totalement imaginaire, mais somme toute relativement indirect. Dans ces conditions, et pour aborder ma dernière partie, en quoi la théorie russellienne de la dualité essentielle du vrai et du faux devrait-elle être tenue, en fin de compte, pour une interprétation erronée de la notion de bipolarité? Jusqu'ici, nous n'avons mis au jour que des différences, assurément non négligeables, entre les conceptions de nos deux auteurs, mais dont aucune ne me paraît justifier en elle-même un diagnostic aussi sévère que celui auquel a cru pouvoir se livrer Palmer, qui, au fond, consiste à dire élève Russell, enfin, ou maître Russell, en l'occurrence, zéro pointé, pardon. Dans l'interprétation de la bipolarité. Contrairement à ce que suggère Palmer, et à s'en tenir au cadre théorique dans lequel s'inscrit la formulation initiale de la thèse de la bipolarité, c'est-à-dire principalement dans les notes sur la logique qui renferment malgré tout le texte le plus complet que Wittgenstein ait jamais consacré à cette notion, le problème ne paraît pas non plus résider dans l'hypothèse de cette double forme de relation possible au fait invoquée par Russell, considérée en elle-même. Je pense l'avoir montré. S'il y a donc lieu d'opposer les deux auteurs, et à condition de comparer ce qui est chronologiquement comparable, je rappelle quand même que lorsque Russell écrit les conférences de philosophie de l'épistémologie, il connaît les notes sur la logique, il connaît les notes dictées à Moore, mais il ne connaît pas tout le reste, parce que Wittgenstein, il ne se voit plus, Wittgenstein est sur le front. Il faudra donc attendre que Wittgenstein revienne, et d'abord le Voltracatus. S'il y a lieu donc d'opposer les deux auteurs, ce n'est pas fondamentalement autour de la thèse de la bipolarité entendue en tant que contrainte sur la notion même de propositionnalité. Le fond de la divergence de vue entre les deux philosophes me paraît être de nature différente. C'est que la thèse de la bipolarité, bien sûr, se présente aussi, voire avant tout, on l'a dit, comme une théorie du sens des symboles propositionnels. Celui-ci ne se donne-t-il pas... de prime abord, il est vrai, on ne voit pas très bien non plus en quoi le projet d'éclairer la notion de sens ou de meaning d'une proposition à partir de celle d'une dualité de relations possibles avec les faits se situerait nécessairement aux antipodes de la position défendue par Wittgenstein. Car après tout, celui-ci ne se donne-t-il pas pour objectif, en l'occurrence, dans les notes à mort, par exemple, dictées à mort, de rendre compte du sens, zin, des propositions, en analysant leur bedeutung, dit-il, et en cherchant à expliquer leur relation à la réalité. Et n'affirme-t-il pas lui-même, toujours dans les notes à mort, que, je cite, « le fait d'être vrai ou fausse constitue effectivement cette relation de la proposition à la réalité que nous signifions en disant qu'elle a un sens ». Afin d'y voir plus clair sur ce point, sans doute convient-il de revenir un instant sur le contexte dans lequel s'inscrit au départ la formulation par Wittgenstein de la théorie de la bipolarité. On l'a dit, en 1913, la réflexion du futur auteur du Tractatus s'inscrit encore dans la perspective de la distinction opérée par Frege entre le Sinn et la Bedeutung d'un énoncé. Et simplement, bon, pour lui, cette Bedeutung n'est pas leur valeur de vérité, mais plutôt le fait qui lui correspond. Hein, bon, pour prendre un autre exemple, si vous préférez, si William Shakespeare a réellement écrit lui-même le Roi Lear, la proposition « Shakespeare est l'auteur de King Lear » a pour référence le fait qu'il la rend vrai. Dans le cas contraire, et donc si la même proposition est fausse, imaginons par exemple que le véritable auteur de la plupart des pièces attribuées à Shakespeare soit en réalité, comme on a pu soutenir, Francis Bacon, chancelier de Verulam, alors elle a pour Bedeutung le fait que William Shakespeare n'est pas l'auteur de King Lear. Supposons une fois de plus que le sens d'une proposition se réduise à ses références, ou même simplement qu'elle en dépende d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, le sens d'une proposition serait inévitablement fonction de sa vérité ou de sa fausseté. L'énoncé « il pleut sur Nantes » aurait un sens différent selon qu'il pleut effectivement, au moment où je la prononce, sur la préfecture de la Loire-Atlantique, ou que le ciel y est au contraire vierge de tout nuage, ce qui paraît pour le moins contre-intuitif. Et surtout, nous ne pourrions jamais savoir ce qu'une proposition, indexicale ou pas, signifie avant de savoir si elle est vraie ou fausse. Convenons d'en parler dans ce cas avec François Rivin, dans l'article que j'ai cité, dont vous trouverez la référence dans le handout, parlons d'une théorie factuelle du sens. Selon Rivin, la théorie de la proposition est ce qui sépare Russell dans la philosophie de la thomismologie en 1918, est une forme de théorie factuelle du sens. À la différence de Palmer, toutefois, Rivin n'en conclut pas que Russell se serait mépris sur le sens de la théorie wittgensteinienne de la bipolarité. À ses yeux, semble-t-il, la thèse de la bipolarité, telle que Wittgenstein, en tout cas, la formule initialement dans les notes sur la logique, ne recouvre pas elle-même autre chose qu'une théorie factuelle du sens. L'interprétation de Rivin se situe donc, de ce point de vue, aux antipodes exacts de celle de Palmer. C'est pour ça que je les mets toutes les deux en perspective. Et bien entendu, je vais jouer l'homme du juste milieu. L'interprétation de Rivin se situe aux antipodes de celle de Palmer, parce que les deux auteurs, certes, s'accordent pour considérer la théorie ébauchée par Russell dans la philosophie de l'atomismologie comme indéfendable, c'est en point commun. Mais alors que Palmer considère qu'elle résulte d'une totale incompréhension de ce que veut dire la thèse de la bipolarité, dont il semble penser qu'elle demeure une des composantes essentielles du Tractatus, et qu'en outre son contenu ne s'est pas fondamentalement modifié entre 1913 et 1919, Rivin estime au contraire que Russell défend en 1918 une thèse qui correspond bien, grosso modo, à la théorie de la bipolarité défendue par Wittgenstein en 1913, mais que celle-ci ne fait justement plus vraiment partie de la doctrine du Tractatus. Elle n'y a plus véritablement sa place, les quelques aphorismes qui pourraient faire croire le contraire, en reprenant plus ou moins à la lettre certaines remarques des notes, n'étant, d'après François Rivin, que du, je cite, « matériau recyclé ». Alors je reviendrai tout à l'heure sur sa dernière hypothèse, mais demandons-nous plutôt pour commencer si la théorie wittgensteinienne de la bipolarité, fût-ce dans sa version initiale de 1913, et la version un peu particulière, il est vrai, qu'en propose Russell dans la philosophie de l'atomismologie, relève bien d'une conception factuelle du sens. S'agissant de Wittgenstein lui-même, la réponse, pour ma part, me paraît clairement négative. Comme nous l'avons vu, c'est précisément pour échapper aux conséquences désastreuses d'une telle théorie, et principalement pour préserver l'indépendance du sens des propositions par rapport aux faits, que Wittgenstein s'estime tenu d'attribuer aux propositions un sinn, un sens distinct de ce qu'il appelle à l'époque leur signification, leur Bedeutung. Certes, la proposition a pour sens le fait vers lequel elle pointe, si on tient à filer la métaphore de la flèche. Toutefois, celui-ci, pour les raisons qu'on a dites, n'est pas, ou en tout cas, n'est pas forcément le fait qui lui correspond effectivement, mais le fait susceptible, le cas échéant, de la rendre vraie. Du même coup, le meaning, la signification d'une proposition, dépend de ce qui est le cas, mais non pas, bien évidemment, son sens. Il me paraît donc clair que la théorie de la bipolarité, et ce dès 1913, loin qu'elle puisse s'interpréter comme une théorie factuelle du sens, se présente au contraire comme le moyen d'éviter les conséquences inacceptables qu'entraînerait une telle théorie, une fois admis ou supposé que les propositions ont pour meaning le fait qu'il les rend, selon le cas, vraies ou fausses. Comme l'observe Wittgenstein, une théorie factuelle du sens, ouais, c'est pas lui qui l'appelle comme ça, bien sûr, mais c'est ce qu'il a en vue lorsqu'il dit qu'elle aurait notamment pour conséquence que les propositions pourraient signifier tantôt de manière vraie, tantôt de manière fausse. Rivin voit dans l'aphorisme 4.0.61 du Tractatus qui s'oppose à une telle idée. Si l'on ne considère pas que le sens de la proposition est indépendant des faits, on peut facilement croire que le vrai et le faux sont au même titre des relations des signes dénotés. On pourrait dire alors par exemple que P, entre guillemets, signifie selon la vérité ce que non-P signifie selon la fausseté. Il y voit une forme d'autocritique rétrospective et de condamnation a posteriori, par Wittgenstein, de la thèse de la bipolarité. Mais j'avoue que j'ai du mal à suivre Rivin sur ce point, puisque l'aphorisme en question se borne en fait à reproduire à la lettre ce que Wittgenstein écrivait déjà dans les notes sur la logique en 1913. Alors qu'en est-il en revanche de la théorie de Russell dans la philosophie de l'atomismologie ? De prime abord, et à juger uniquement du moins d'après le passage célèbre de la première conférence que nous sommes contentés de citer jusqu'ici, rien au fond ne permet, semble-t-il, d'attribuer à Russell, sans autre forme de procès, une espèce quelconque de théorie factuelle du sens. Le texte que vous avez... que j'ai cité, qui est sur le Hanage, demeure relativement inscrutable sur ce point. Après tout, Russell s'en tient à l'observation, selon laquelle la relation du symbole au symbolisé revêt un caractère différent selon qu'il s'agit du nom ou de la proposition. Mais Wittgenstein, après tout, ne dit apparemment rien d'autre lorsqu'il soutient, comme on vient de le voir, que le fait d'être vrai ou fausse constitue effectivement cette relation de la proposition à la réalité que nous signifions en disant qu'elle a un sens. Je passe sur mes arguments, c'est une reprise de mes arguments précédents. À ce stade, donc, rien ne nous permet de supposer, même si rien ne permet d'exclure, que le sens d'une proposition soit directement et systématiquement fonction de ce qui se trouve est effectivement le cas. Vous avez vu, le seul cas de figure envisagé par Russell est celui où Socrate étant mort, la proposition « Socrate est mort » est vraie en vertu du fait que le philosophe athénien est mort. La proposition « Socrate n'est pas mort » se rapportant à ce même fait positif, mais, dit-il, de façon fausse. Rien n'est dit à cet endroit du cas où Socrate n'est pas mort. Et donc on ne saura pas si la proposition « Socrate est mort » signifie dans ce cas, quoique de façon fausse, le fait que Socrate n'est pas mort, ou bien si elle continue d'avoir pour sens, malgré tout, le fait qu'il est mort. Et donc les deux possibilités sont ouvertes. Toutefois, les choses se compliquent lorsqu'on considère un autre passage, à certains égards plus révélateur, de la troisième conférence, c'est la troisième citation sur le handout. Vous n'avez sans doute pas manqué d'observer que de même que le terme de bipolarité et l'image même des deux pôles sont remarquablement absents, j'en ai encore pour 5-10 minutes, c'est bon ?
Oui,
bon. Du passage qu'on a examiné jusqu'ici, de même la métaphore de la flèche qui l'accompagne chez Wittgenstein, enfin non, c'est pas la flèche comme ça, c'est la flèche comme ça, brille elle aussi par son absence. La métaphore fait néanmoins une courte mais remarquable apparition dans le cours de la discussion consacrée par Russell dans la troisième conférence au statut comparé des propositions atomiques et des propositions moléculaires quant à la vérité ou la fausseté. Alors que la vérité ou la fausseté d'une proposition comme par exemple « Socrate est mortel » ou « Socrate vit encore », c'est l'exemple que prend Russell, dépend de la co-occurrence de deux faits différents. Dans le cas des propositions atomiques, nous dit Russell, il n'y a qu'un seul fait indiqué, soit de façon vraie, soit de façon fausse. Alors là, je reprends la traduction de Jean-Michel Roy. Le terme en anglais, c'est « there is just one fact pointed to hein ». Bon. Jusqu'ici, la formulation choisie par Russell peut paraître, dans le meilleur des cas, ambiguë. S'agit-il de dire que la proposition « Socrate est mortel », par exemple, pointe en direction du fait que Socrate est mortel, quelle que soit par ailleurs sa valeur de vérité, donc indépendamment de savoir si Socrate est réellement mortel, ou encore indépendamment de la question de savoir si, ce faisant, elle correspond de façon vraie ou fausse à ce qui se trouve être effectivement le cas, ou bien l'idée de Russell est-elle que la même proposition pointe vers le fait que Socrate est mortel si elle est vraie, et à l'encontre du fait en question si elle est fausse. La suite du texte lève, je dirais malheureusement, l'équivoque. Je cite, « L'essence d'une proposition consiste à pouvoir correspondre de deux manières à un fait. » C'est le texte que vous avez cité là. « L'une que l'on peut appeler vraie, l'autre que l'on peut appeler fausse. » Ce qui peut s'illustrer par un schéma du genre du suivant. Et donc là, nous avons des flèches, effectivement. Alors, vrai, dans le cas du vrai, vous le voyez, la flèche va de la proposition au fait. Dans le cas du faux, la proposition s'éloigne. Elle va à l'encontre, comme il dit, du fait, et c'est ce que s'appelle le fait. Supposons, continue Russell, que vous ayez la proposition « Socrate est mortel ». Vous avez soit le fait que Socrate est mortel, soit le fait que Socrate n'est pas mortel. Dans le premier cas, il lui correspond de la manière qui la rend vraie, dans l'autre, de la manière qui la rend fausse. C'est une des différences qui existent entre une proposition et un non. Fin du passage. Certes, on pourrait dire qu'après tout, dans le chemin ci-dessus, les flèches symbolisent simplement la manière vraie ou fausse, selon l'état du monde, dont la proposition correspond, entre guillemets, à ce qui est effectivement le cas. Et si l'idée dont il s'agit de rendre compte est simplement celle selon laquelle les faits, comme l'écrit Wittgenstein, se comportent par rapport aux propositions de manière à les rendre vraies ou fausses, la relation de correspondance de la proposition au fait dont parle ici, enfin dans le sens proposition-fait dont parle ici Russell, n'est une fois encore que la converse de la relation fait-proposition, de truth-making ou de false-making, selon le cas, qu'évoque de son côté Wittgenstein, et à laquelle semble renvoyer du reste Russell lui-même dans la quatrième phrase du texte. Hein, où vous verrez qu'il dit « il correspond ». Et « il », c'est le fait. Cette fois-ci, ce n'est plus la proposition. Alors, évidemment, le passage en question, tout problème, est de savoir si dans ce schéma, la flèche sert également à symboliser ce que Wittgenstein appelait en 1913 le sens de la proposition. Autrement dit, la question est de savoir si Russell ne tend pas à rabattre la relation de la proposition au fait susceptible de la rendre vraie, sur la relation de correspondance, comme il dit, qu'elle entretient avec le fait réel, en vertu duquel, selon le cas, elle est vraie ou fausse. Certes, le passage en question doit être placé dans son contexte, qui traite en principe des seules notions de vérité ou de fausseté, et non pas de la signification des énoncés. Mais il est difficile de ne pas avoir également présent à l'esprit que le premier passage que j'ai cité, au cours duquel Russell commence par souligner la différence à ses yeux fondamentale de nature entre les noms et les propositions, se rapporte en revanche à la manière dont les uns et les autres, dit-il, symbolisent. Et il est également difficile de ne pas songer également à cet autre passage des mêmes conférences, où Russell affirme, sans plus de détails et sans autre précision, qu'alors que le nom Socrate a pour unique fonction sémantique de désigner le mari de Xanthippe, Socrate désigne Socrate, tu vois, n'introduisons pas de description, et alors que mortel désigne, nous dit-il à sa manière, une certaine qualité, la phrase Socrate est mortel, quant à elle, signifie, means, un certain fait. À la différence de Jean-Michel Roy, là je traduis meaning par signification plutôt que par sens, hein, parce que c'est vraiment meaning. Bon. Dans ces conditions, et sans que de tels éléments textuels puissent, me semble-t-il, être considérés comme totalement concluants, il est à craindre, en effet, que Russell éprouve, au moins en 1918, la tentation de rebattre la notion de sens d'une proposition sur la double relation que celui-ci semble, à la suite de Wittgenstein, devoir entretenir, avec l'un ou l'autre des faits appelés, selon l'état du monde, à la rendre vraie ou fausse, et donc qu'on puisse bel et bien parler, en fin de compte, d'une théorie factuelle du sens, dans l'acception que donne Rivink à ce mot. Si tel devait être sans conteste possible le cas, comment expliquer que l'auteur de la philosophie d'atomisme logique ait pu à ce point passer à côté de ce qui nous paraît a posteriori constituer le message principal, ou du moins l'une des motivations essentielles de la doctrine wittgensteinienne de la bipolarité, à savoir la thèse de l'indépendance du sens. Sans doute une partie de l'explication tient-elle à ce qu'il faut bien appeler l'actualisme de Russell, ou en d'autres termes à la constance avec laquelle, en conformité avec son impatience bien connue pour les notions modales, il a eu de cesse que de tenter de ramener le possible à l'actuel, dont témoignent explicitement plusieurs passages d'ailleurs du manuscrit 1913, et sur lesquels François Schmitz a eu l'occasion d'attirer à juste titre l'attention dans un article tout récent, et qui semble avoir interdit à Russell d'avancer dans la voie que suivra de son côté Wittgenstein, en réinterprétant la notion de sens d'une proposition dans les carnets, et puis bien sûr dans le Tractatus surtout, en termes d'état de choses possibles. Mais sans doute également, peut-on supposer également, que la résistance farouche que Russell ne cesse d'opposer tout au long de la période qui nous intéresse, à l'endroit de cette même notion, plonge par ailleurs ses racines dans quelque chose de plus ancien, de plus profond, c'est-à-dire dans le rejet devenu désormais viscéral chez lui des éventuelles faussetés objectives et autres spectres meinongiens, qu'elle paraît devoir immanquablement évoquer à tort ou à raison dans son esprit, et qui l'ont conduit quelques années plus tôt à renoncer, au profit de la théorie du jugement comme relation multiple, à la conception qu'il avait défendue antérieurement de la croyance ou du jugement comme relation dyadique entre le sujet et un unique objet propositionnel. Reste que l'explication la plus simple est probablement que Russell, en 1918, n'a pas, en fin de compte, entièrement renoncé, en dépit du très relatif bémol introduit à cet égard par la théorie des descriptions de 1905, à la conception référentielle du sens qui était à l'origine de la sienne dans les Principles of Mathematics. J'ai dit que le paragraphe bien connu des conférences sur la philosophie d'atomisme logique dans lequel Russell expose la thèse de la dualité de la proposition se présente en principe comme une tentative d'éclaircissement de la notion de sens, ou plus exactement qu'il vise à rendre compte du fait que le mot sens, meaning en l'occurrence, n'a pas lui-même le même sens selon que nous parlons du sens d'un nom, celui d'un prédicat ou d'une proposition. À l'évidence, le mot doit, doit être pris ici dans son acception la plus large, hein, à l'instar du mot meaning qu'emploie Rivink Russell en anglais. Ce dont il est question ici, c'est de la signification des symboles linguistiques en général, dans son sens à la fois le plus général et le plus ordinaire du terme. Cependant, ce n'est probablement pas, un hasard si Russell utilise ce terme de préférence au mot sense, qui aurait pu faire normalement tout ceci bien l'affaire. Il est tentant de penser qu'en dépit des remaniements successifs apportés à sa première doctrine de la signification du jugement et de la proposition, enfin celle de 1903 dans les Principles, Russell, en 1918, n'a pas encore fait véritablement son deuil du principe de réduction du sens à la référence qui formait en 1903 l'essentiel de la théorie de la signification, des Principles of Mathematics donc, et qui, étendu des constituants des énoncés déclaratifs au cas de ces énoncés eux-mêmes, conduisait alors à concevoir chacune des propositions ainsi exprimées comme une entité à part entière qui ne saurait être confondue avec la simple collection de ses propres constituants. C'est à ce réalisme propositionnel que Russell, comme on sait, devait renoncer entre 1906 et 1906, 10, pardon, en raison principalement de la difficulté qu'elle entraîne dans le cas des propositions fausses. Bien, et vous savez que du coup, ça va libérer la notion de proposition, la proposition étant traitée désormais comme un symbole incomplet, ça va libérer le terme proposition pour désigner non plus le contenu d'un énoncé, pour dire vite, mais cet énoncé lui-même, le signe, l'énoncé déclaratif, si vous voulez. Et c'est ce que fera Wittgenstein de la même manière, bien entendu. Maintenant, en quoi consiste la signification d'une proposition dans ce nouveau sens du terme? C'est ici que Russell se trouve confronté à un nouveau problème. D'un côté, grâce à Wittgenstein, il s'est peu à peu, à partir de 1913, à partir de 1913, convaincu de la possibilité d'attribuer aux phrases, aux propositions et aux noms le même type de fonctionnement sémantique, mais de l'autre, tout en rejetant désormais officiellement le paradigme exclusif de la nomination, il continue malgré tout de concevoir la notion de signification en général d'une façon qui tend globalement à situer celle-ci plutôt du côté de la Bedeutung frégéenne. Or, nous avons vu que pour Wittgenstein lui-même, en 1913-1914, c'est-à-dire au cours de la période où les deux hommes ont l'occasion d'échanger leurs vues sur ces questions avant que les circonstances de la guerre ne les séparent, la Bedeutung d'une proposition est le fait qui lui correspond objectivement et qui la rend, selon le cas, vraie ou fausse. Ne cherchez pas plus loin, madame, pourquoi le petit chat est mort, ou si vous préférez, pourquoi Russell, en 1918, pourrait effectivement avoir toutes les raisons à première vue de mésinterpréter les intuitions, aussi géniales que précoces, de Wittgenstein, dans le sens d'une sorte de factualisme sémantique. Compte tenu des évidentes difficultés intrinsèques d'une telle conception, eu égard notamment, rassurez-vous, j'en ai bientôt fini, au principe de l'indépendance du sens, et même si à aucun moment, sauf erreur de ma part, celui-ci n'est explicitement invoqué comme tel dans la philosophie d'atomisme logique, on peut toutefois se demander jusqu'à quel point Russell, y compris à cette époque, aurait été effectivement prêt à l'endosser, cette théorie factuelle du sens, alors même que l'un des appendices du fameux manuscrit de 1913 donne à penser qu'il en avait clairement perçu, peut-être déjà sous le coup des objections de Wittgenstein, les limites, au point d'envisager déjà lui-même, volens nolens, quelque chose comme un état de choses possible en tant que dénominateur commun, par exemple, à la proposition P et à sa négation. Deux textes immédiatement postérieurs à la philosophie d'atomisme logique, d'abord un bref passage de l'article de 1919 « On Proposition », ainsi que deux paragraphes d'analyse de l'esprit 1921 qui sont cités par Ivanck, d'ailleurs, dans l'étude que j'ai eu l'occasion d'évoquer, donnent à penser que Russell a très vite pris conscience des difficultés inhérentes à toute forme de théorie factuelle, qu'il a même du coup à distinguer entre la notion de signification, meaning d'un énoncé, d'une part, et ce qu'il continue à appeler bizarrement sa référence, c'est-à-dire en fait son orientation vers le fait qui, selon que l'énoncé est vrai ou faux, est de nature à le rendre vrai ou faux. De sorte, si vous voulez, mais sans que soit totalement abandonné pour autant, l'idée qu'il existe dans son esprit un lien une sorte de lien constitutif, au moins partiellement, entre les deux notions. Mais sans doute convient-il de souligner ici le partiellement. Car, dès 1918, Russell s'empresse de dire qu'à ses yeux, la notion de signification, meaning, est une notion en partie psychologique, qu'il est impossible d'en donner une théorie purement logique, et qu'il se gardera bien, en tout cas, d'en donner une définition générale, son but étant plutôt, dit-il, de montrer qu'elle recouvre une forme de relation du symbole au symbolisé, différente selon les catégories de symboles considérées. Selon lui, et s'anticipe déjà ça sur le tournant de 1919-1920, les notions de symbole et de signification mettent en jeu des aspects psychologiques, comme, dit-il, les associations d'images ou d'idées, et ce qu'il appelle des relations cognitives. Et donc, on peut présumer que ce qu'il va dire ensuite du meeting des propositions en particulier, ne concerne que cette dimension partielle de la notion de signification qui relève d'une théorie logique, comme il dit, donc seulement de ce qui est pertinent du point de vue de la logique elle-même, ainsi que des rapports entre signification et vérité, du point de vue de leurs conséquences pour la question de l'ameublement du monde. De ce point de vue, il n'est peut-être pas totalement absurde de voir dans la problématique quelque peu confuse, admettons-le, de ces années charnières, de Russell en matière de théorie sémantique, le point de départ de l'évolution qui conduira finalement Russell a opéré dans signification et vérité en 1940, une distinction ouvertement psychologisante, hein, et donc aussi peu wittgensteinienne que frégéenne d'inspiration, entre sens et référence, ou plus exactement entre ce qu'il appellera expression et indication, que l'on peut considérer comme une sorte de préfiguration de l'actuelle théorie dite de la bifurcation ou du double composant. Alors ceci est une autre histoire, mais montre néanmoins que s'il en était besoin, qu'en histoire de la philosophie comme ailleurs, les cartes n'en finissent jamais d'être battues, et qu'en tout cas, et en dépit de certaines apparences textuelles, rien ne prouve que ni Wittgenstein, ni même à tout prendre seul, ait jamais adhéré complètement au principe d'une doctrine aussi manifestement indéfendable que la théorie dite factuelle du sens. Brièvement, puisqu'il me faut quand même conclure, que de penser à présent de la suggestion de Ivanck selon laquelle la théorie de la bipolarité ne jouerait plus dans le Tractatus qu'un rôle secondaire, et pour tout dire de pure forme. Alors, c'est une hypothèse qui paraît cette fois largement plausible, encore qu'il faille certainement distinguer à cet égard entre l'intuition fondamentale que recouvre la thèse en question, à savoir, je répète, l'idée que toute proposition authentique doit pouvoir être aussi bien vraie que fausse, et d'une part la double métaphore des pôles et des flèches, qui ont servi dans un premier temps à sa formulation, et d'autre part la postulation qu'il aura sous-tendue initialement d'une Bedeutung, une référence du symbole propositionnel. Mon sentiment est que l'intuition fondamentale subsiste dans la doctrine du Tractatus, mais qu'en effet, du fait du renoncement de Wittgenstein à l'idée d'une référence du signe propositionnel, La métaphore initiale n'intervient plus d'une certaine manière comme survivance d'une problématique objectivement déjà dépassée. Pour le dire d'un trait, la différence fondamentale à mes yeux entre le Wittgenstein de 1913 et le Wittgenstein du Tractatus, du point de vue qui nous intéresse, hein, ne tient pas au fait que le premier aurait défendu, comme le soutient Rivin, une théorie factuelle du sens ou de la signification, au sens le plus large, ni aller dans le Tractatus, la conception bipolaire cède peu à peu la, en réalité la place en tant que théorie du sens à une redéfinition de ce dernier en termes d'état de choses possibles, etc. Car d'une certaine façon, cette dernière idée était déjà présente dans les textes des années 1913-1914, même si Wittgenstein, bien sûr, n'y disposait pas encore, enfin jusqu'à un certain jour, du fameux thème de la proposition tableau. La différence essentielle à mes yeux est tout simplement que les propositions dans le Tractatus n'ont plus de référence. Ceci m'amène à mon ultime remarque, qui me servira de conclusion. Un des traits les plus frappants, à bien y réfléchir, de la problématique commune de nos deux auteurs à la veille et au tout début du premier conflit mondial, sur ce point, hein, bien entendu, réside dans la façon passablement, quoique inégalement laborieuse, avec laquelle l'un et l'autre ont tenté de nouer, pour le meilleur et pour le pire, deux questions qui nous paraissent aujourd'hui, avec le recul, devoir dans une large mesure être dissociées. La question du vérifacteur éventuel d'une proposition, qui relève, d'une part, qui relève avant tout d'une analyse de type métaphysique, et la question de son statut logico-sémantique, d'autre part. C'est à mes yeux un des principaux mérites du renouveau récent de la métaphysique analytique et du rôle central qui joue la notion de choice-making, précisément, pourtant en partie héritée de l'atomisme logique des pères fondateurs, que d'être parvenu à distinguer de plus en plus soigneusement entre les deux questions. Mais c'est aussi un des grands mérites, certainement, de Russell et Wittgenstein, que d'avoir de façon sans doute différente fait à leur manière et bien involontairement la preuve du risque qu'il y avait à les nouer trop étroitement. Je vous remercie. Et je vais m'excuser pour la longueur peut-être excessive. C'est pas grave. Évidence qui veut que dans